Donc, ce matin, on continue la série. Si on met mon PowerPoint, la vraie nature du christianisme. Est-ce important? Absolument. C'est important parce que de plus en plus, le christianisme en tant que christianisme est remis en question. Et là, on lui apporte toutes sortes d'étiquettes qui ne lui vont pas bien, mais pas du tout. Parce que dans le monde, malheureusement, on ne connaît pas vraiment la vraie nature de qu'est-ce que c'est le christianisme. Et naturellement, dans le mot christianisme, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, qui fait toute la différence, mais qui malheureusement, c'est possible qu'on parle de christianisme sans parler de lui, ou sans que lui soit la personne la plus importante. C'est le Christ lui-même, le Messie, Jésus de Nazareth. Alors, tout tourne autour de sa personne et de son œuvre. Et pour nous, c'est très important de constamment revenir sur cette vérité. Je vais allumer mon petit. Voilà. Excellent. Alors, on est dans Romains. En fait, c'est Romains qui est l'inspiration de cette série, Romains 8. De cette série sur la vraie nature du christianisme. Et là, ce matin, ce qu'on va voir, c'est le quatrième message qui est aucun déshéritement. Romains 8, 14 à 17. Romains 8, 14 à 17 parle d'appartenance, parle de lien familial avec Dieu, parle aussi d'adoption et justement d'héritage dans la gloire comme étant une réalité incontournable de la vraie nature du christianisme. Et là, la vérité, alors pour montrer, oui, c'est ça, là, aucun déshéritement. Donc, la vérité que j'aimerais faire ressortir ce matin à travers Romains 8, 14, 17, c'est la suivante. Notre union avec Christ, qui est la base fondamentale, justement, de si on est chrétien ou pas, c'est si on est uni à Christ, nous assure une adoption dans la famille de Dieu et une part à l'héritage que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants. Et ça, c'est sans exception. Et là, pour reprendre la phrase célèbre de Paul, il n'y a donc maintenant non seulement aucune condamnation, non seulement aucun vide, non seulement aucun cul-de-sac, comme on a vu jusqu'à maintenant, mais aucun déshéritement pour ceux qui sont unis à Christ. Et là, on va aller voir le texte de Romains 8, 14 à 17. Verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et ici, on pourrait dire que c'est un synonyme même d'être unis à Christ. Il aurait pu dire, car tous ceux qui sont unis à Christ sont fils de Dieu. Et ça aurait été une vérité absolue. Tout comme il est en train de dire, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a vu justement que grâce à notre union avec Christ, c'est pour ça qu'il n'y a aucun vide dans notre vie, même s'il y avait un vide avant de connaître Christ. Mais une fois qu'on a rencontré Christ comme sauveur personnel, bien, le Saint-Esprit est venu faire sa résidence permanente en chacun de ceux qui sont nés de Dieu, nés de nouveau, et donc fils de Dieu, et donc conduits par l'Esprit. C'est une caractéristique d'être un enfant de Dieu. C'est pour ça que c'est pas une religion. Et c'est pour ça que ceux qui essayent de suivre le christianisme ou de prendre Jésus simplement comme modèle à imiter se trompent lamentablement. Parce que c'est pas une question premièrement, d'imiter Christ, sa personne, son enseignement. Il y en a qui l'ont essayé, se sont cassés les dents. Je sais pas si vous connaissez Léo Tolstoï. Avez-vous déjà entendu parler de lui? Léo Tolstoï, un homme très connu, très célèbre. Il a écrit plusieurs romans, ainsi de suite. À un moment donné, il était un athée invétéré. Et à un moment donné, il s'est converti au christianisme. Et pour lui, ce que ça voulait dire de se convertir au christianisme, c'était de prendre Jésus comme modèle dans sa vie et son enseignement. Il trouvait Jésus fabuleux. Entre autres, le sermon sur la montagne dans Matthieu 5 jusqu'au chapitre 7. Il trouvait que Jésus était révolutionnaire, exceptionnel et attirant. Et donc, il a voulu suivre son enseignement. Et vous savez, lui et sa femme avaient un journal intime dans lequel ils écrivaient à peu près tout ce qu'ils vivaient, leurs réflexions et tout ça, et ils donnaient accès l'un à l'autre à lire le journal intime. Et sa femme, dans son journal intime, dit ceci de son mari. Que c'était un homme qui suivait le Christ, mais seulement d'une manière austère. Et que malgré le fait qu'ils avaient 9 enfants ensemble, ils n'avaient jamais levé le petit doigt pour aider son épouse. Et que c'était un homme désagréable à vivre avec. Donc, il avait l'enveloppe, mais il n'avait pas la nouvelle nature qui change le cœur d'une personne. Donc, ça devient une religion si Christ n'est pas en moi, si l'Esprit de Dieu n'est pas en moi, si je ne suis pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais naturellement, je suis un chrétien parce que j'adhère au christianisme dans ce sens-là, mais comme on dit souvent, c'est un chrétien de nom. Et il n'y a pas de réalité intérieure, il n'y a pas de transformation intérieure parce qu'il n'y a pas de présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et c'est ça la grande différence. Verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit non plus de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Et ça, vous savez, c'est on ne peut pas empêcher ça d'arriver. Quand l'Esprit de Dieu vient résider dans le cœur d'une personne, son réflexe, c'est d'appeler Dieu son papa. Parce que Dieu est devient notre Père céleste, notre Père qui est compatissant, notre Père qui est le Père des miséricordes. Donc, c'est un cri du cœur, Abba, et même c'est un terme intime ici. C'est comme si on ne fait pas juste appeler quelqu'un un Père, mais on l'appelle un Papa, un terme qu'on désigne avec intimité. Verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes... » Quoi? Enfant de Dieu. Et donc, vous voyez, c'est de l'intérieur que ça se passe. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est son travail. C'est pas à nous à nous convaincre de quelque chose. C'est le travail de l'Esprit. C'est pas que nous, on n'est pas en train des fois de se poser des questions, de se remettre en question et ainsi de suite. Ça, je comprends ça. Mais c'est le témoignage de l'Esprit à l'intérieur du cœur d'une personne, à l'intérieur de son esprit, qui le convainc, qui lui rend témoignage. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille. Tu es à l'intérieur. Tu n'es plus à l'extérieur, mais tu es maintenant à l'intérieur et tu fais partie de la famille. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Ben, ça vient avec, là. Nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin aussi d'être glorifiés avec lui. Là ici, voici ce que John Piper dit, que j'aime beaucoup et qui m'inspire énormément et que j'ai beaucoup glané de lui dans cette série. Mais il dit ceci, « La Bible, d'un couvert à l'autre, cherche à communiquer une grande vérité. Dieu est prêt à aller très loin pour nous. Et il est allé très loin par amour pour nous. Et il l'a fait même au-delà de notre imagination la plus folle. Car ce qu'il a fait pour nous avait pour but quelque chose de beaucoup plus grand que de simplement nous sentir aimés par lui pour le simple fait de se sentir aimé. Que là, on a besoin de se sentir aimé, ben là, Dieu veut qu'on se sente aimé. Et il l'a fait pour quelque chose d'encore plus grand que ça. Et là, Dieu fait tout par amour pour son nom et, tenez-vous bien, c'est nettement plus avantageux pour nous que Dieu fasse tout pour la gloire de son nom, que Dieu fasse tout par amour pour son nom. On est vraiment avantagé qu'il fasse tout, même en notre faveur, pour son nom, pour sa gloire. Regardez Daniel 9, 19. Daniel dit, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alors même Daniel reconnaissait que Dieu devait agir, mais ici, il allait agir par amour pour son nom. Il y a de la puissance ici. Il y a de l'interpellation de Dieu lorsqu'on prie de cette façon. Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, si Dieu ne se souvient plus de nos péchés, il ne se souvient plus de nos péchés par amour pour lui. On dirait, ben non, c'est par amour pour moi. Pour moi, le pécheur, c'est moi qui ai avantagé ici parce qu'il ne se souvient plus de mes péchés. C'est pas qu'il est en train de contredire que nous, on est bénéficiaires, là. C'est pas ça du tout. Mais Dieu le fait parce que son nom, sa réputation, le fait qu'il nous a créés à son image, comme on dit en anglais, is on the line. C'est ça qui est sur la table. C'est ça l'enjeu. Et c'est même l'enjeu, si vous vous rappelez de Job, quand Satan vient argumenter avec Dieu, puis dit, oh oui, Job, il t'aime. Mais il t'aime juste pour une raison. Ah ouais? 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 Moi, je le sais pourquoi qu'il t'aime. Ah ouais? T'es smart de même? Ouais? Et pourquoi Job aimait Dieu? Selon la sagesse de Satan? C'est quoi? La religion. Il t'aime parce que tu le bénis. Voilà. Tu y en donnes des bonbons, puis des belles choses, puis des bénédictions, puis tu l'avantages, tout lui réussit, ça va bien dans sa vie. Alors, c'est sûr qu'il t'aime. Qui t'aimerait pas? Simplement par amour pour lui, et non par amour pour toi. Toi, t'es juste un accessoire pour que lui arrive à ses buts. Parce que moi, je les connais, les hommes. Et les femmes, peut-être un peu plus les hommes que les femmes, mais sont égoïstes. Ils font tout pour eux-mêmes, tout pour les avantager dans la vie. N'importe quoi qu'ils font, ils le font en fonction de ce que ça leur apporte. Mais enlève ça. Enlève-y ta bonne main de protection. Enlève-y ces bénédictions que tu as, la clôture que tu as mis pour que tout ça, là, ça soit préservé et qu'il n'y a rien de l'extérieur qui vienne l'atteindre. Aucune maladie, aucun problème, aucune sécheresse, aucune mort inhabituée ou tragique, rien de ça. Là. Il est protégé, c'est incroyable. Job, il est comme ça. Tu lui enlèves tout ça, là, enlève ça un à un, là, puis tu vas voir, il va te maudire en face. Il va dire, ben là, si c'est ça, Dieu, si t'es pas mieux que ça, puis tu m'apportes pas plus que ça dans ma vie, ben moi, je te renie. Je veux rien savoir d'un Dieu comme ça. Et on l'entend des fois, celle-là. Si Dieu permet les guerres, si Dieu permet la souffrance, si Dieu permet la maladie, si Dieu permet ceci, puis c'est ça, je comprends pas. Un Dieu d'amour ne devrait pas permettre ça. Et on sait que l'histoire démontre que Satan avait tort et que Dieu avait raison. Il dit, non, Job, là, il m'aime par amour pour moi. Et la vie de Job, son témoignage, c'est de démontrer que l'homme peut aimer Dieu par amour pour Dieu. Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est le témoignage de Job. Ésaïe 48, 11. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu l'a fait par amour pour lui, afin de nous libérer de cet horrible esclavage que nous vivions, d'être vus, d'être reconnus, adulés, aimés, désirés, célébrés par les autres et par conséquent, animés par la peur, la frustration, la hantise et l'anxiété de ne pas y arriver. Autrement dit, Dieu, il veut enlever ça de l'équation. Il veut qu'on puisse l'aimer pour lui, pour qui il est. Et en nous libérant de nous-mêmes, de cette obsession d'être le centre de l'univers, d'être reconnu, adulé, aimé, respecté, et ainsi de suite, eh bien, nous, on est libérés. On est libéré de cette obsession et de cette crainte, de cette anxiété. Ou du moins, je dirais, on est de plus en plus libéré. Parce que c'est aussi un processus de sanctification. Plus on s'attache à Dieu, plus on l'aime pour qui il est, bien, plus on est libéré, justement, de nous-mêmes. Alors, Dieu nous libère de nous-mêmes en nous unissant à son Fils pour ainsi recentrer nos vies sur lui et trouver en lui notre plus grande joie, notre plus grande satisfaction, notre plus grande réalisation et notre plus grand plaisir. Et quand ça arrive, je vous le dis, intérieurement, il y a un miracle qui se passe. Et Dieu sait que la seule façon de profiter pleinement de la vie et de ressentir le maximum de joie, c'est en étant libéré de nous-mêmes, en s'attachant à lui et en le reconnaissant comme le Dieu suprême de notre vie. La valeur la plus importante, la personne la plus estimable à nos yeux, c'est Dieu lui-même. Et ça, c'est la voie par excellence pour se sentir pleinement aimé, pleinement comblé et pleinement entier. Vous savez, Éphésiens 3, 14 à 19 fait ressortir cette vérité. Vous allez ressentir plus l'amour de Dieu lorsque vous allez plus goûter à l'amour de Dieu en vous laissant de plus en plus détrôner du trône de votre vie et en laissant Christ régner de plus en plus sous votre cœur. Et ça, c'est la grosse bataille. Paul dit justement, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son Saint-Esprit dans votre être intérieur. » Vous voyez encore, c'est cette réalité que ça se passe à l'intérieur. Verset 17, que Christ habite dans votre cœur par la foi. Il n'y est pas déjà. Il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas là. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il doit prendre sa place dans notre cœur. Il doit justement détrôner notre propre tendance à vouloir diriger notre vie, à être indépendant de Dieu pour pouvoir maintenant régner. Alors, on pourrait dire ici, que Christ règne dans votre cœur par la foi. C'est la même vérité quand il parle de Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est-à-dire que Christ rénove votre vie, rénove votre cœur, vous détrône de vous-même et vous emmène à le laisser régner sur votre vie par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre. Alors, lorsque ça arrive... Autrement dit, lorsque Christ habite dans nos cœurs de plus en plus par la foi, lorsqu'il règne de plus en plus en nous par la foi, et lorsqu'on est enraciné et fondé dans l'amour, donc il y a quelque chose qui se passe au fur et à mesure que ça arrive, qu'on laisse Dieu prendre la place dans notre vie qu'il mérite d'avoir, qu'il doit être celui qui dirige notre vie, qu'on nous, on est dépendant, on lâche prise, on laisse Dieu nous diriger, on veut faire la volonté de Dieu, on veut plus vivre selon nos passions, on veut plus vivre selon nos idées, selon nos projets, selon ce qu'on aime, selon ce qu'on veut, et je vais avoir ce que je veux quand je veux, puis comme je veux. Non, c'est plus ça maintenant. Moi, je veux ce que Dieu veut. Je veux avoir ce que Dieu veut. Je sais que c'est le meilleur pour moi. Je sais que sa volonté, elle est parfaite et qu'elle va contribuer à mon bonheur dans ma vie et tout ça, et qu'il n'y a pas de meilleure place que de laisser Dieu régner dans mon cœur. Amen? Amen. Et sur une échelle de 1 à 10, 10 étant, il règne pleinement, et 1 étant, vous êtes au début, là. OK? De laisser Dieu prendre toute sa place dans votre vie. Alors, entre les deux, là, il y a 9 échelons. 1 à 10. Dieu, il sait exactement où vous êtes. Peut-être vous autres, vous pensez que vous êtes à 9. Puis en fait, vous êtes à 3. Hein? Peut-être vous pensez que vous êtes à 3. Puis en fait, vous êtes rendu à 9. Moi, je dirais que ceux qui pensent qu'ils sont à 9, souvent sont vraiment à 3. Et ceux qui pensent qu'ils sont à 3 sont peut-être pas à 9, là, mais en tout cas. Parce que la réalité, là, c'est que quand Dieu prend de plus en plus place en nous, qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, chez nous, là, dans la salle de bain, j'ai deux sortes de lumières. J'ai une lumière que si je veux pas voir grand-chose, j'allume celle-là. Puis j'ai une autre lumière que si je veux voir tout, je l'allume. Je l'allume pas souvent, moi. Mais je l'allume parfois. Puis en plus, dans la salle de bain, on a un miroir grossissant. OK? Puis là, ben, j'ai passé un peu de temps cette semaine pour me regarder dans ce miroir-là. Puis quand je regarde dans ce miroir-là, je vois des choses que je vois pas normalement. Des fois, ma femme, elle voit des choses, puis moi, je les vois pas, puis je comprends pas. Mais là, quand je me regarde dans ce miroir-là, avec toute cette lumière-là brillante, là, eh bien là, je vois tout. Puis encore là, je vois pas tout, là, mais j'en vois pas mal plus que je... Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe quand un cœur se tourne de plus en plus vers le Seigneur puis qu'il règne de plus en plus dans sa vie? Ben c'est ça, on en voit pas mal plus d'affaires. On voit des angles morts, on voit des choses qu'on veut pas voir. Mais on a besoin des voir pour pouvoir les donner à Dieu puis pouvoir dire, « Seigneur, j'ai besoin que tu me libères de tout ça aussi, à mon grand désarroi, Seigneur. » Et vous savez, plus une personne rencontre le Seigneur, ça c'est souvent une chose qui se passe, c'est caractéristique. C'est que tout à coup, les façades tombent. On parlait des masques qui tombent là tantôt. Les façades tombent, les masques tombent. La personne, elle se défend pas. Elle reconnaît qu'elle a telle difficulté, tel problème, tel mécanisme de vivre et qui devrait pas être dans sa vie. Puis elle va confesser facilement qu'elle est imparfaite, qu'elle a des défauts, qu'elle a des choses que Dieu doit changer dans sa vie. Et qu'elle, elle va se tourner vers Jésus. Et là, son seul espoir, c'est Jésus. C'est pas de se cacher, c'est pas de se tenir à l'écart des autres pour pas que personne la juge et tout ça. Non, elle va se venir à la conscience, piété, désir d'honorer Dieu du plus profond de mon âme. Moi, j'ai dit, je fais construire ma maison. Je vais agir droitement et selon les règles. Et j'ai agi droitement et selon les règles du début à la fin, même si mon contracteur, qui n'était pas chrétien, il a essayé de m'en passer une coupe à travers ça. Puis je dis, mais pourquoi tu me... Mais non, je veux pas faire ça. Non, mais regarde, tu peux payer le plombier, puis là, je vais te donner le 500 $ qui est prévu, mais c'est toi qui le payes. Mais je dis, pourquoi c'est moi qui le paierais? Ben parce que tu vas pas le payer. Autrement dit, ça, c'est-tu sans facture? C'est-tu en dessous de la table? Ben oui, c'est ça. Ah non, je fais pas ça, là. Non, mais là, écoute, 500 $, tu peux pas faire ça. Ben, c'est pas mon problème, là. Moi, quand j'ai signé avec toi, tu me dis que tu m'allouais 500 $ pour ça, mais tu m'as jamais dit que j'allais faire ça en dessous de la table. Je te l'ai dit, moi, je voulais tout faire comme faut. Non, bouge pas. Ben, finalement, il a fait faire la plomberie. T'es pas content? Là, à un moment donné, une autre affaire arrive. Là, c'est la peinture. Alors, nous autres, on voulait de la peinture, différentes couleurs, dépendamment de la place et tout ça. Et encore là, il y avait un montant. Fait que là, il arrive le temps de la peinture. Fait qu'il me dit, prends mon peintre. Puis là, avec le montant que je t'ai alloué, puis là, arrange-toi avec lui et tout ça. Il dit, OK, c'est correct. Là, c'est son peintre, ça doit être correct. À un moment donné, le gars des armoires arrive. Il dit, qui fait ta peinture? Ah, ben, là, je dis, là, non, le contracteur, là, puis il va me passer son peintre, là. Il dit, comment ça va coûter? Ben, il dit, 1 200. Elle dit, oublie ça. Qu'est-ce que oublie ça? Elle dit, ça coûte bien plus cher que ça. Oh, facile le double. On parle de, là, quasiment 30 ans, là. Hein? Hein? On dit ça, c'est en dessous de la table. Ben non, ça peut pas, là, pas encore une autre affaire de même. Je te dis, informe-toi, c'est en dessous de la table. Ben oui, c'est en dessous de la table. Ah, ben, sac à papier. Ben là, moi, mon contracteur, ah là, il dit, écoute, oublie ça. Il dit, moi, je paye pas pour ça, puis t'arranges-toi, puis débrouille-toi. Puis fait que là, finalement, qui a fait la peinture? C'est Benoît. Moi, j'ai pas prévu ça, là, à mon emploi du temps. Mais Dieu est gracieux, il m'a emmené du monde qui était peintre professionnel, qui travaillait pas à ce moment-là, qui a pu me donner un coup de main avec l'équipe de bénévoles et tout ça. Fait que finalement, j'ai été correct. Mais vous comprenez? Puis là, qu'est-ce qui se passe? Sur ma rue, il y en a d'autres qui se font construire, tout en dessous de la table. C'est qui a des problèmes avec sa maison quand l'hiver arrive? C'est mon oncle Benoît. Eh oui! Là, le bain gèle en haut. Qu'est-ce que c'est, le bain gèle? Oui, Benoît, l'eau, elle s'en va pas. Qu'est-ce que c'est, l'eau, elle s'en va pas? Enlève le bouchon. Ben oui, non, j'ai enlevé le bouchon. Non, mais là, tu peux pas, là, voyons donc. T'as dit, viens voir. Ah, ben, que c'est ça? M'en va en bas, ouvre le garde-robe, plein de glace dans le plafond, le bain est drette là en haut. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, de la glace sur le bord des traînes, dans le salon, dans la hotte de cuisine, l'air froid qui rentre, c'est gelé autour de la haie. Qu'est-ce que c'est ça? Eh oui, qui a eu des problèmes? C'est Benoît. Eh oui. Mais, pourquoi j'ai des problèmes, moi? Qui a tout fait correct, tout fait droitement. J'ai pas voulu faire rien qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Eh bien, Dieu avait un rendez-vous avec moi pour me détrôner à Christ et qui nous a pleinement justifiés et même qui nous sanctifie. Il est notre sanctification. Seigneur, tu nous as fait le privilège de nous habiter par ton Saint-Esprit, de venir résider en nous. Et cette habitation du Saint-Esprit, elle est permanente. Elle nous apporte ta vie en nous. Elle nous transforme de l'intérieur. Elle suscite en nous de nouveaux désirs, une nouvelle aspiration, un amour pour toi, un amour pour ta parole, pour même ta loi. Et elle nous donne la capacité maintenant de vivre en nouveauté de vie. Et Seigneur, aussi, tu nous donnes un espoir que tout ce que vers quoi qu'on s'en va, que ce n'est pas vers le néant. Ce n'est pas un cul-de-sac, Seigneur, non. On s'en va dans ta présence. On s'en va avec la promesse de la résurrection même de notre corps, comme de quoi que tout ce que tu nous as promis, tu vas le donner. Et ce matin, en plus, tu nous dis, Seigneur, qu'en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, bien, Seigneur, on est dans ta famille. On fait partie de tes enfants. On est membre de ton corps. On est gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. On n'est plus de l'extérieur. On n'a pas à craindre est-ce que on va être invité à l'intérieur. Non, Seigneur, on fait partie de ta famille. Et en faisant partie de ta famille, tu nous donnes un héritage incroyable, Seigneur. Et ça, c'est à nous. Tu nous assures de cela à cause de notre union avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est ici ou qui écoute sur Internet qui n'a pas cette espérance? Qui ne te connaît pas comme sauveur personnel? Qui n'a pas dit encore oui à ton invitation de justement te réconcilier avec toi en acceptant ce que tu as fait sur la croix pour lui et que tu lui tends la main ce matin, que tu lui demandes de t'accepter comme sauveur personnel, de t'inviter dans sa vie, dans son cœur, que tu sois le Dieu de sa vie, que tu pardonnes ses péchés, que tu lui accordes le don de la vie éternelle, comme un cadeau. Seigneur, est-ce que ton esprit, ce matin, a un rendez-vous avec quelqu'un en particulier? Seigneur, je veux prier pour lui, je veux prier pour elle, de manière à ce que son cœur s'ouvre et qu'il vienne à toi tel qu'il est, sans aucun mérite, simplement par amour, parce que, Seigneur, tu l'as aimé et tu t'es donné pour lui. Seigneur Jésus, on est tous ici ce matin. Plusieurs te connaissent déjà comme sauveur personnel. Plusieurs ont un cheminement de vie avec toi, un parcours de vie, comme un pèlerinage, Seigneur, avec des hauts et des bas. Seigneur, est-ce que tu règnes dans le cœur de chacun de ceux et celles qui entendent ce matin ce message? Est-ce que tu as la place que tu veux avoir, la place que tu devrais avoir dans le cœur de chacun? Est-ce qu'il y a quelque chose ce matin, comme moi, il y a plusieurs années, qu'il fallait que je te laisse, que je t'abandonne, que je te demande, Seigneur, prends ça, prends-le, Seigneur, libère-moi de ça. Viens, Seigneur, régner dans ma vie. Viens me donner ta paix. Viens me donner ta joie, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, Seigneur, qui a besoin de crier à toi, de te demander, Seigneur, je te le donne, prends-le, prends cette situation, prends cet esclavage, prends cette peur, cette anxiété, prends, Seigneur, cette décision que j'ai de la misère à prendre parce que elle a des implications dans ma vie. Seigneur, viens me libérer. Je te demande, Seigneur Jésus, viens régner davantage sur mon cœur pour que je puisse, Seigneur, grandir et marcher avec toi, marcher en nouveauté de vie. Seigneur Jésus, peux-tu entendre son cri ce matin et venir vers lui, venir vers elle, pour qu'elle puisse vraiment te donner ce qu'elle a besoin, Seigneur, de laisser. Que tu puisses venir, Seigneur, installer ta paix, installer ta joie, installer, Seigneur, ta grâce dans son cœur, qu'elle soit réconfortée, rassurée, comme de quoi que tu es là, et qu'avec toi, Seigneur, il n'y a plus de soucis maintenant. Il peut tout te donner, tout te confier, que tu vas être avec lui, que tu vas être avec elle, et tu vas l'accompagner dans chaque pas, dans chaque décision. Alors merci, Seigneur Dieu, merci de nous donner autant grâce à toi, grâce à ton œuvre sur la croix. Merci, Seigneur, de nous poursuivre encore et encore pour qu'on puisse goûter de plus en plus à ton amour à chaque jour de notre vie. En ton nom, Jésus, pour ta gloire. Amen.